Bien le bonjour, bienvenue à l'émission Les Voix de Service Magazine. Hélène Bédard au micro. Alors, nous sommes rendus à l'édition du vendredi 3 août 2018. Et en studio avec moi, Francine Forget, bonjour.
Bonjour Hélène, ça va ce matin?
Oui, ça va très bien, merci.
Bon, c'est bien, c'est bien.
Bonjour Maurice Bolduc.
Bon vendredi.
Merci. Alors voilà, ce matin, nous allons aussi saluer Catherine Emmanuelle Brunet, qui est encore une fois en vacances, et on lui souhaite de bien belles vacances. D'ici là, Francine, vous allez nous introduire avec quelques sujets.
Plusieurs sujets, comme à l'habitude, et variés, toujours dans le domaine des sciences et technologies. Alors, les assistants vocaux, sauver la planète en créant de la richesse, poursuite de la série Les mystères qui narguent la science dans Québec Science, et quelques autres articles dont je vous réserve la surprise tantôt.
Les surprises, j'ai hâte. Merci, Francine. De mon côté, je vais vous parler deuxième volet des Filles du Roi. Je vais vous parler aussi de nouvelles censures et des erreurs de médicaments qui arrivent trop souvent chez les aînés. Nous vous revenons après cette courte pause. Alors voilà, Francine va procéder à l'ouverture avec... je la laisse aller.
Avec un article paru dans Le Devoir le 30 juillet, les assistants vocaux, des dispositifs très attentifs et peu regardants. Cet article a été produit par deux journalistes de Libération, Amaël Guiton et Christophe Alix. Une enfant de 6 ans qui commande une maison de poupées et une boîte de biscuits à l'insu de ses parents. Un message publicitaire conçu pour déclencher un assistant vocal dans les foyers américains afin de promouvoir un hamburger. Un couple qui découvre que sa conversation a été enregistrée et envoyée à un tiers dont le numéro figurait dans le carnet de contact de l'épouse. D'un côté, le discours bien rodé d'Amazon, Google et Apple vantant un monde d'interaction fluide et intuitive avec les objets du quotidien pour vendre leurs enceintes connectées, gonflées à l'intelligence artificielle. De l'autre, les premiers bugs, pas franchement rassurants. C'est un truisme qu'il n'est pas inutile de rappeler par les temps qui courent. Comme pour tout dispositif connecté, le risque de piratage existe. À l'été 2017, un chercheur de l'entreprise de cybersécurité britannique MWR Labs a ainsi montré qu'il était possible de transformer aisément les modèles 2015 et 2016 de l'enceinte d'Amazon Echo en micro-espions, à condition d'y accéder physiquement. Les modèles 2017, eux, sont mieux protégés. Mais c'est surtout l'activation non voulue de ces appareils qui soulève des inquiétudes quant au fait que les enceintes dites intelligentes ont mal compris ce qu'elles ont entendu d'une part et au déclenchement d'une commande par un tiers d'autre part. L'an dernier, l'enseigne de restauration rapide Burger King a détourné Google Home à l'aide d'un message publicitaire de 15 secondes qui se terminait par la phrase « OK Google, qu'est-ce que le Hooper? » Activé. L'enceinte allait alors piocher la réponse dans une page Wikipédia. Plus flippante, cette histoire en mai d'un couple de Portland dont la conversation a été enregistrée par une enceinte d'Amazon Echo puis transmise à autrui. Explication de l'entreprise, Echo s'est réveillé après avoir entendu un mot de la conversation qui sonnait comme Alexa, qui est le nom du logiciel assistant vocal, Echo étant celui de l'appareil. Puis, elle a interprété la conversation suivante comme la demande « Envoie un message ». L'enceinte a ensuite interprété la conversation comme le nom d'un contact. Appareil dur de la feuille ou activé par des tiers animés d'intentions plus ou moins coupables. Ce type d'incident est d'autant plus problématique que les enceintes connectées sont censées avoir de plus en plus de cordes à leur arc. Nous avons déjà des assistants vocaux sur nos téléphones relève Gwendal Legrand, directeur des technologies et de l'innovation à la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Mais les enceintes connectées sont des objets à demeure et elles sont de plus en plus puissantes. Elles permettent de faire des achats en ligne, de contrôler des éléments de la maison comme l'éclairage, la température. Cela peut vite devenir délicat. Autre gros problème, la captation des données personnelles. Amazon Echo, comme Google Home, envoie les requêtes des utilisateurs sur des serveurs distincts où elles sont non seulement traitées pour donner lieu à une réponse ou à une commande, mais aussi conservées. En cas de piratage de compte, ces interactions se retrouvent exposées. Surtout, ce sont autant d'informations supplémentaires sur nos comportements. L'entreprise en démarrage française Snips, qui compte commercialiser son enceinte connectée l'an prochain, défend, à contrario, un modèle basé sur le traitement local des ordres donnés par les utilisateurs. La voix est un marqueur biométrique, comme l'empreinte digitale, et n'a pas à être stockée dans le nuage informatique, fait savoir son directeur des opérations, Yann Lechel. Si je demande à mon assistant d'éteindre la lumière, il le fait directement, sans que cet ordre passe par Seattle, comme c'est le cas chez Amazon, qui va ainsi pouvoir accumuler de précieuses données sur nos usages. Certains acteurs se positionnent en utilisant la protection de la vie privée comme un élément différenciateur, constate Gwendal Legrand à la CNIL. Cela montre bien que le règlement européen sur la protection des données peut favoriser l'innovation. En tout état de cause, mieux vaut garder à l'esprit qu'une enceinte connectée est par nature un dispositif intrusif dont on peut oublier la présence. Raison pour laquelle le gendarme de la vie privée recommande, entre autres, de couper le micro quand on ne l'utilise pas ou lorsqu'on a des invités, d'éviter de laisser un enfant interagir seul avec ce type d'appareil, de réfléchir aux fonctionnalités litigieuses qu'on active, le contrôle d'une porte, d'une alarme, et de supprimer régulièrement l'historique de ses conversations avec les assistants vocaux. Alors, un article de Libération rapporté dans Le Devoir du 30 juillet sur les assistants vocaux, dont il faut se méfier peut-être un petit peu.
À vous entendre, oui, effectivement. Merci. Merci, vive le papier. La discussion continuait ici, dans cette courte pause. C'est toujours fascinant, ça. C'est cette technologie qui doit nous aider, mais finalement qui peut nous surprendre également. Alors voilà. Moi, de mon côté, je vais vous parler d'une autre technologie. C'est un texte de Francine Pelletier, paru dans Le Devoir. Ça s'appelle « Le cauchemar climatisé », la technologie des climatiseurs. À la morgue de Montréal, on ne sait plus où mettre les cadavres. La vague de chaleur enregistrée en juillet aurait créé, selon le coroner Jean Brochu, une situation sans précédent. 53 morts dans la métropole, 89 pour l'ensemble du Québec. Dû non pas ni même à deux, mais même à quatre canicules coup sur coup. Du jamais vu. Les victimes sont des personnes seules, âgées, aux prises avec une maladie ou autre, sans accès à la climatisation. On est loin, évidemment, des centaines de milliers de morts survenues en Europe à l'été 2003. Mais comment s'en consoler alors qu'on se liquéfie sous des températures frôlant, avec l'humidex, les 40 degrés? J'écris d'ailleurs ces lignes sous un gros ventilateur, un petit linge mouillé drapé sur le cou. Va-t-il falloir que je cède à mon tour, que j'enjambe une fois pour toutes mon aversion pour la réfrigération à gogo en me pliant à ce que Henry Miller appelait « air conditioning nightmare », c'est-à-dire le cauchemar climatisé de l'Amérique? Le titre du récit de Miller, ne ciblait pas en priorité la climatisation, mais plutôt la vie ennuyante et monotone qui sévissait dans la plupart des États américains en 1940. Mais il est difficile de trouver le symbole plus fort de la petite vie nord-américaine, doule et ronronnante à souhait, que ces grosses caisses en plastique beige qui de plus en plus polluent le regard, les oreilles et l'environnement. Quel objet tiré de nos vies modernes incarne mieux d'ailleurs le confort et l'indifférence que ces engins du diable qui font un pied de nez aux voisins et un bras d'honneur à l'environnement? En 2009, aux États-Unis, près de 90 % des habitations étaient climatisées. Alors imaginez un peu aujourd'hui. Nos voisins utilisent autant d'électricité pour refroidir leur maison que toute l'Afrique pour l'ensemble de ses besoins électriques. Les pays en développement sont de moins en moins en reste, cela dit. En Chine, la climatisation a triplé en 20 ans. L'expansion faramineuse des classes moyennes en Asie et du Sud-Est et ailleurs au tiers-monde passe automatiquement par une demande accrue en air conditionné. Longtemps considéré comme le luxe suprême, une dépendance comparable à celle du crack dans les pays riches, dit un anthropologue anglais. La climatisation reflète pour les pays les plus pauvres, qui sont aussi les plus chauds, non seulement un réel besoin, mais une preuve de réussite. Tenez, à Dubaï, dans les Émirats unis, un hôtel se vante d'offrir, grâce à un système élaboré de tuyauterie enfouie sous terre, la seule plage climatisée au monde. On n'arrête pas le progrès, encore moins l'air réfrigéré aux hydrofluorocarbures. Un rapport de l'Université Berkeley prévoit l'installation de 700 millions de climatiseurs d'ici 2030 et 1,6 milliard d'ici 2050, principalement dans les pays en voie de développement. En termes de consommation d'électricité, c'est l'équivalent d'ajouter plusieurs nouveaux pays sur la planète, me dit-on. Avec les conséquences environnementales que l'on sait, bien entendu. Non seulement une consommation accrue d'électricité représente des milliards de tonnes de plus de CO2, qui est le principal gaz à effet de serre, mais les climatiseurs, ces grosses ventouses à haut décibels, rejettent directement la chaleur dans l'air ambiant. Résultat, plutôt que de refroidir les villes qui ont désespérément besoin de fraîcheur, leur utilisation contribue à les chauffer davantage. Le produit réfrigérant, finalement, le HFC, le fameux hydrofluorocarbure, est un gaz à effet de serre des milliers de fois plus toxique que le dioxyde de carbone. Bref, le cercle est parfaitement vicieux. On a besoin de plus en plus de climatisation parce qu'il fait de plus en plus chaud, et il fait de plus en plus chaud, du moins en partie, parce que de plus en plus de gens exigent la clim. Alors que faire, donc? Haïr les voisins qui ont la témérité de s'emmurer dans une bulle de froid sans égard aux autres ou à l'environnement, n'étant tout compte fait pas très utile, alors, il est temps que les gouvernements s'en mêlent peut-être, avec des règles et une supervision plus stricte. Il serait possible de remplacer les fameux hydrofluorocarbures par un gaz moins toxique, par exemple, afin d'exiger que de vraies mesures d'efficacité énergétique et proscrire certains modèles totalement désuets. Il n'est pas dit que les relations entre voisins se porteront mieux, mais l'environnement, lui, assurément. Alors, un texte de Francine Pelletier, paru dans Le Devoir, qui s'intitulait « Le cauchemar climatisé », paru en juillet 2018.
Mon père avait laissé ma mère au centre d'achat.
Mon père avait laissé ma mère au centre d'achat.
J'en ai Lisa sa presse assise sur le sofa.
J'en ai Lisa sa presse assise sur le sofa.
Un hold-up en première page. Ça y a sauté dans le visage, puis est sorti pour checker ça. Après avoir laissé ma mère au centre d'achat,
après avoir laissé ma mère au centre d'achat,
mon père était parti pour s'acheter du tabac.
Mon père était parti pour s'acheter du tabac.
En sortant de la tabagie, il a entendu deux coups de fusil, puis il s'est demandé ce qui se passait là. Ma mère debout sur le comptoir, avec un gun entre les mâchoires, qui faisait peur aux employés du magasin d'antiquités. Mon père rentre dans le magasin, suivi de Johnny pis de ses copains. Ma mère le tire à bout portant, avec son gun noir chargé à blanc.
Mon père en crise a pris ma main par les épaules.
Mon père en crise a pris ma main par les épaules.
Et tous les deux ils ont dansé un rock'n'roll.
Et tous les deux ils ont dansé un rock'n'roll.
La police fait son entrée à coup de pied des antiquités.
Le gérant trouva ça moins drôle. La police a ramené ma mère à la maison.
La police a ramené ma mère à la maison.
Ils sont allés conduire mon père à la prison.
Ils sont allés conduire mon père à la prison.
Johnny y est retourné se coucher parce qu'il était pas mal fatigué.
Mais l'histoire en dit pas plus long.
À Canal M, on entendait les charbonniers de l'enfer, Hold Up.
Merci, merci Maurice. Alors, nous allons poursuivre avec Francine.
Oui, alors, un des articles surprise, donc je ne vous ai pas parlé tantôt. Ce que les mots disent de nous, c'est la chronique Technopop de Catherine Matisse dans Québec Science, juillet-août 2018. Les algorithmes utilisés dans les systèmes d'intelligence artificielle dépendent des données avec lesquelles ils sont programmés. Or, celles-ci contiennent parfois des biais sociaux que ces systèmes contribuent à renforcer. Bien qu'il soit possible de les retirer de manière systématique, des scientifiques ont plutôt cherché à s'en servir pour mieux comprendre l'impact des mouvements sociaux sur certains stéréotypes. Ces chercheurs de Stanford ont utilisé un algorithme capable de détecter l'évolution des biais ethniques et genrés aux États-Unis au cours du 20e siècle. Ils ont appliqué la technique de prolongement lexical pour cartographier les liens entre les mots issus de livres et de journaux. Ils ont pu ainsi corréler certains changements linguistiques avec de grands schismes sociaux, comme le mouvement féministe des années 1960 et les vagues d'immigration issues de pays asiatiques des années 1960 et 1980. Certains résultats sont encourageants, d'autres le sont moins. Par exemple, dans la première partie du 20e siècle, les adjectifs intelligents, logiques ou réfléchis étaient davantage attribués aux hommes. Mais depuis les années 1960, ils sont de plus en plus souvent associés aux femmes. Cela dit, quand on observe les adjectifs les plus fréquents pour décrire les femmes entre 1910 et 1990, l'évolution est plus étrange. On est passé de charmante, placide et délicate, à maternelle, morbide. Alors ici, Mme Matisse a mis un gros point d'interrogation entre parenthèses, et artificielle. Vive le progrès! La recherche s'est aussi attardée aux stéréotypes des populations asiatiques qui sont passés des adjectifs barbares, monstrueux et cruels, à inhibés, passifs et sensibles, au cours du 20e siècle. Comme quoi, les stéréotypes évoluent, mais ne disparaissent pas. Et le langage courant les absorbe, tel un témoin des mœurs et attitudes d'une époque. Voilà un terreau fertile qui promet d'envisager des analyses sociologiques à une toute autre échelle grâce à l'apprentissage machine. Peut-être que dans 20 ans, on se rendra compte de l'effet positif du mouvement « moi aussi » sur notre discours collectif à propos des femmes. Si on pouvait remplacer « morbide » par résiliente, ce serait déjà ça de gagner. Alors, c'est la chronique Technopop, Catherine Matisse dans Québec Science, juillet août 2018.
Je vais sourire, Francine. Quel
oui, mais oui, c'est vraiment intéressant de voir ça, hein? Mm. Oui, oui. On se voit pas aller des fois, hein?
Tout à fait.
On disait ça.
Tout à fait.
Mais c'est encore le cas aujourd'hui.
Et hélas, oui.
Oui.
Merci beaucoup. Alors, nous revoilà en studio pour ma Hélène Bédard au micro. Alors, pour ma part, je vais retourner aux sources. On parle de technologie, mais moi, je vais vous parler des filles du roi qui dit bien ceci. Sans elles, nous ne serions pas là. C'est un texte de Christian Rioux, paru dans Le Devoir, pardon. Il y a 350 ans, le premier contingent des filles du roi débarquait à Québec. Nous allons retracer le périple à travers cet article. Je vous ai déjà fait part d'un premier article lors d'une émission précédente. Voici la suite. L'historien démographe Yves Landry a recensé chacune de ces quelques 800 filles qui ont fait la traversée pendant 10 ans. Le voyage pouvait durer 2 à 3 mois et était une épreuve terrible. Après 2 mois dans la Sainte-Barbe, ils arrivaient en piteux état et parfois très malades. Certaines mouraient même en chemin. En 1667, après une autre traversée, 16 filles durent être transférées à l'Hôtel-Dieu de Québec. Ça fait plus de 20 ans que ce chercheur de l'Université de Montréal, qui vit aujourd'hui sur la terre de ses ancêtres dans le Perche, est à la poursuite des filles du roi. Auteur du répertoire biographique « Les filles du roi » à Fides, Landry est en quelque sorte celui qui a sorti ces inconnues de l'ombre à une époque où elles ne soulevaient guère d'intérêt. Pourtant, ces filles ont littéralement changé le destin de la colonie, dit-il. En 1663, le Québec est en crise et il compte à peine 3 000 habitants. On est en guerre avec les Iroquois. Il y a 6 à 14 fois plus d'hommes que de femmes. Il faut absolument envoyer des femmes pour assurer la croissance naturelle de la colonie, sinon on ferme boutique. Entre 1634 et 1654, donc 20 ans, il arrive à peine 5 filles par année, selon le généalogiste français Jean-Pierre Macoin. Le futur gouverneur de Trois-Rivières, Pierre Boucher, réclame depuis longtemps un puissant secours et va plaider sa cause devant le ministre Colbert et le jeune Louis XIV. L'effort des communautés religieuses qui amenaient déjà des femmes de manière intermittente ne suffit plus. En 1662, les doléances des colons sont enfin entendues. Le nouveau ministre du roi veut faire participer les colonies à sa nouvelle politique économique. Le futur roi Soleil affirme son autorité. Le Canada passe sous son administration royale. Il devient une province de France et Louis XIV envoie 1200 hommes du régiment de Carignan-Salière. Mais surtout, entre 63 et 73, donc sur 10 ans, environ 800 filles du roi, leur nombre varie quelque peu selon certaines évaluations, arriveront dans la colonie. Elles sont transportées par le roi et jouissent d'une dot royale de 50 livres pour les roturières et de 100 livres pour les demoiselles. C'est une décision politique, dit l'historien, celle de ne pas laisser l'Amérique du Nord aux Anglais. C'est Marguerite Bourgeois qui baptise pour la première fois ses filles à marier ou épouseuses du beau nom de fille du roi. Donc, ce nom va rester. Un nom qui, contrairement à ce concluent certains historiens, vient probablement de celui des orphelins recueillis dans les hôpitaux qu'on appelait « enfants du roi ». Pour l'historien français Didier Poton, de l'Université de La Rochelle, l'arrivée des premières filles du roi en 1663 représente la preuve que Paris a changé de politique à l'égard de la Nouvelle-France et qu'elle entend donc prendre ses responsabilités. À partir de 1665, le nouveau gouverneur Jean Talon adopte des mesures encourageant les mariages précoces et les naissances. Pendant 10 ans, l'effort sera maintenu afin de contrer la progression des colonies néerlandaises et anglaises sur la côte est des États-Unis où les colons arrivent par milliers, dit l'historien. Sans ces filles, la Nouvelle-France aurait probablement disparu dès 1713, lorsque la France a dû céder l'Acadie à l'Angleterre. Sans elles, il n'y aurait pas eu de développement agricole. Elles ont joué un rôle aussi majeur dans la survie de la colonie que les alliances avec les Amérindiens. D'origine surtout urbaine, la plupart des filles du roi parlent français. Plusieurs historiens ont vu dans leur arrivée un facteur important de l'unification rapide de la langue française au Québec, alors que les langues régionales dominaient encore largement les provinces françaises. On suppose que venant en majorité de l'Île-de-France ou ayant vécu dans Saint-Port, les filles avaient presque toutes appris le français. Toujours est-il qu'en Nouvelle-France, on ne connaît qu'un seul procès qui est exigé, un traducteur, dit l'historien. Contrairement à ce qui a parfois été affirmé, il faudra beaucoup plus que 20 ans pour établir l'équilibre démographique de la colonie. En 1680, il y avait encore deux fois plus d'hommes que de femmes, mais l'impulsion était donnée et dès la fin du siècle, la population pouvait progresser par elle-même. Après 20 ans de recherche, il arrive encore à Yves Landry de se demander ce qui motivait ses filles à partir. Pour en savoir plus, il faudra dépouiller tous les actes notariés. Même si la vie était très dure, les premiers poêles à bois arrivant enfin au 17e siècle, les filles du roi trouvent généralement au Canada des conditions matérielles meilleures qu'en métropole. Le droit de chasser, réservé aux nobles en France, assure une meilleure alimentation. Malgré les guerres, la durée de vie est de 5 à 6 ans supérieure à celle qui prévaut dans la métropole. Aujourd'hui, parce que tous les Canadiens français de souche ont une fille du roi parmi leurs ancêtres, dit le généalogiste Hubert Charbonneau de l'Université de Montréal. Mais il en aurait fallu 10 fois plus. Comparé à l'Angleterre, davantage tournée vers les océans, la France, grande puissance continentale, n'a pas eu une vision transatlantique, dit-il. Si Catherine Duchamp aura 18 enfants, d'autres comme Marie Vaquet n'en auront aucun. Au bout de 2 générations, elles auront en moyenne 30 petits-enfants, a calculé Charbonneau, qui compte lui-même 56 filles du roi parmi ses ascendants. La championne toute catégorie, Nicole Philippot, aura 137 petits-enfants. Parmi les descendants des filles du roi, on trouve même l'ancienne secrétaire des États-Unis, Hillary Clinton, descendante de Madeleine Niel, Catherine Polo et Madeleine Plouard. Comme quoi, les filles du roi ont marqué l'Amérique bien au-delà du Québec. Alors, c'était un texte paru dans Le Devoir de Christian Rioux qui portait sur les filles du roi. Sans elles, nous ne serions pas là. Je vous laisse pour une courte pause. Ne nous quittez pas. Nous revenons avec l'ensemble du magazine Les Voix de service tout de suite après cette pause.
Vous écoutez Les Voix de service.
Sur ce rocher dans les broussailles, au vent d'avril, je suis monté. Il fait plus chaud sur la montagne, j'ôte la veste et le chandail. Y'a que la brise et les oiseaux, plus de klaxons ni de moteurs. Sur le grand lac, plus de bateaux, seulement la cognée de mon cœur. Il se fait arriver quelque chose, bombe atomique, jugement dernier. Vous seriez parti pour le ciel et le sort m'aurait épargné. Près de la piste désertée, seulement l'abeille qui bourdonne. Aucun chalet n'est occupé et c'est étrange, je me sens comme le dernier homme. Comme s'il n'y avait plus personne, comme si tu m'avais oublié. Comme le dernier homme, comme le roi ou l'astronome sur sa planète abandonnée. J'irai jusqu'à la prochaine ville, j'aurai ma chambre et ma bouteille. À l'horloge aux bras immobiles, je t'attendrai dans mon sommeil. J'irai marcher dans le désert, là où le soleil nous assomme. Je m'étendrai les yeux ouverts, nu et brûlé, je serai comme le dernier homme. comme s'il n'y avait plus personne, comme si tu m'avais oublié. Comme le dernier homme, comme le roi ou l'astronome sur sa planète abandonnée.
Service Pierre Flynn, le dernier homme.
Merci Maurice. Alors nous sommes de retour au Voix de service magazine et nous allons poursuivre la lecture avec Francine Forget.
Oui, après le dernier homme, on va parler des premières fleurs.
Oui,
alors dans le dossier, ces mystères qui narguent la science, les fleurs, cet abominable mystère. C'est pas de moi l'article abominable. Les plantes à fleurs dominent le monde végétal. Malgré leur apparition récente et soudaine sur Terre. Un hoquet de l'évolution? C'est une question que pose Mélissa Guillemette et qui tente de donner des réponses dans Québec Science, juillet-août 2018. Céleri, gui et tamari. Bouleau, coquelicot ou sureau. Noyer, thé puis orchidée. Plus de 90 % des végétaux sur Terre sont des plantes à fleurs. Pourtant, ces dernières ne sont apparues qu'il y a environ 130 millions d'années, contre 400 millions pour les plus anciennes plantes. Aujourd'hui, elles dominent largement la planète, avec 375 000 espèces contre moins de 1000 pour leurs proches parents, comme les conifères, pourtant là bien avant elles. Quelle mise en échec! Tout cela mystifiait Charles Darwin, le père de la théorie de l'évolution, car la chose ne cadrait pas avec sa vision de l'évolution en tant que processus très graduel. Pour expliquer le phénomène qu'il qualifiait d'abominable mystère, le scientifique avait d'ailleurs émis une hypothèse radicale. Les plantes à fleurs auraient évolué sur un continent isolé et disparu, d'où l'impossibilité de trouver des fossiles témoignant de leur évolution progressive. Quelques 150 ans plus tard, l'énigme taraude toujours les scientifiques. La preuve, plein d'articles sont publiés à ce sujet chaque année avec de nouvelles idées. Et le débat s'enflamme parfois, raconte le phytoécologiste Ophir Katz, qui a publié une revue du sujet en janvier dernier dans Annals of Botany. Ce qui différencie les plantes à fleurs, les angiospermes, de leurs parentes, les gymnospermes, comme les conifères, c'est leur mode de reproduction révolutionnaire. La fleur contient le plus souvent à la fois les organes mâles et les organes femelles, et ses graines sont protégées au sein du pistil. Quant aux gymnospermes, elles produisent des cônes mâles et des cônes femelles, et les graines sont nues. Comment les angiospermes, si différentes, ont-elles pu émerger à partir des gymnospermes? À cet effet, la chronologie est un mystère en soi. La lignée qui a donné les angiospermes s'est séparée de celle des gymnospermes de 50 à 200 millions d'années plus tôt que l'âge du plus vieux fossile connu de plantes à fleurs. Il y a donc une longue période où les premières angiospermes sont introuvables. Les fossiles de plantes sont plus ardus à trouver et à analyser que les fossiles d'animaux. Ils sont par ailleurs sujets à interprétation et sont donc pas 100% objectifs. Quant aux outils de datation moléculaire, ils ont aussi leurs défaillances, indique M. Katz, qui travaille au Dead Sea and Arava Science Center en Israël. Difficile donc d'obtenir des données irréfutables. Autre énigme, la diversification rapide, je m'excuse. Pourquoi les fleurs ont-elles foisonné si vite? Quelques moteurs peuvent expliquer ce coup d'accélérateur. La coévolution avec plusieurs espèces animales qui mangeaient ou pollinisaient ces nouveaux végétaux a pu contribuer à la dispersion des graines et à la domination géographique. La dérive des continents a également pu jouer un rôle en permettant à des espèces de se diversifier en parallèle. Surtout, ce que Darwin ne savait pas, c'est que le climat était beaucoup plus chaud il y a 50 millions d'années, de 5 à 6 degrés Celsius. Cela a probablement donné un coup de pouce aux angiospermes qui étaient bien adaptés à ce climat, un avantage pour multiplier les espèces, explique Jean Bousquet, professeur au département des sciences du bois et de la forêt de l'Université Laval. Des équipes de recherche partout dans le monde ajoutent régulièrement un morceau au puzzle. Ainsi, en janvier dernier, des scientifiques américains avançaient que la petite taille des cellules des plantes à fleurs, due à la dimension réduite de leur génome, participe à l'efficacité de la photosynthèse. Cet avantage remonte à 140 millions d'années et aurait favorisé l'essor des plantes à fleurs, disent-ils, dans PLOS Biology. Ophir Katz estime quant à lui qu'il faudra une décennie ou deux pour parvenir à des percées importantes concernant cette énigme. Et pour la résoudre, il faudra encore beaucoup plus de temps. Un abominable mystère, plutôt coriace, conclut Mélissa Guillemette dans Québec Science, juillet-août 2018.
Merci, Francine. Étonnant vos textes, Francine, étonnant. Et parlant d'intrigues de Darwin, moi je veux vous parler d'une autre scientifique, Brenda Milner. Je vous en ai déjà parlé dans une émission précédente, alors je fais une suite. Vous ne connaissez peut-être pas Brenda Milner, elle est sûrement aussi moins connue du grand public qu'un joueur de quatrième trio du Canadien, mais dans le milieu scientifique international, elle a le statut d'une légende. Donc, à quelques mois de son centième anniversaire, celle qui a joué un rôle clé pour comprendre la mémoire et dont le nom a circulé pour le prix Nobel, refuse de prendre sa retraite. Donc, je vais vous parler de cette Montréalaise au parcours fascinant qui n'a aucune intention de devenir sage seulement parce qu'elle est âgée, soi-disant. Je vais vous parler de la pionnière. Elle est née donc en Angleterre, à Manchester. Sa mère était chanteuse, son père était pianiste et critique musicale pour le quotidien The Guardian. Mais elle montre peu d'aptitudes musicales. Par contre, elle adore la littérature et a un talent pour les langues. Au moment de s'inscrire à l'université, la jeune femme hésite entre la science et les langues. Elle s'inscrit donc à l'université de Cambridge en mathématiques. « J'aurais tellement voulu être mathématicienne, dit-elle aujourd'hui. Pour moi, les mathématiques, c'est l'élégance, la logique. Mais j'ai rapidement réalisé que je ne serais jamais une grande mathématicienne. Je n'avais pas assez de bonnes aptitudes visuo-spatiales. » Elle bifurque donc vers la psychologie, un domaine où elle excelle rapidement. Quand la Seconde Guerre mondiale éclate, celle qui s'appelle encore Brenda Langford est envoyée dans une unité de recherche sur les radars. Elle y rencontre un jeune ingénieur électrique, Peter Milner. Celui-ci part pour Montréal pour lancer une unité de recherche sur l'énergie nucléaire. Cette année-là, Brenda prend donc deux grandes décisions. Elle épouse Peter et part avec lui pour le Canada. Une fois à Montréal, Mme Milner décroche un poste pour enseigner la psychologie à l'Université de Montréal. Peter a reçu de l'argent pour moi, mais je ne peux pas être une femme entretenue. C'est pas dans ma nature, explique-t-elle. Le milieu universitaire francophone de la fin des années 40 lui fait une forte impression. Brenda Milner s'inscrit ensuite au doctorat à l'Université McGill sous la direction du réputé psychologue Donald Hebb. C'est là qu'elle fait la connaissance du docteur Penfield, Wilder Penfield, qui pratique des opérations sur le cerveau des patients épileptiques afin de soulager leur crise. Les opérations du docteur Penfield améliorent souvent le sort des patients, mais certains d'entre eux souffrent ensuite de paralysie, de troubles du langage et de problèmes de mémoire. Brenda Milner passe beaucoup de temps avec eux. Elle était fascinée. Minutieusement, en faisant passer des tests aux patients, les scientifiques tissent des liens entre les troubles qu'ils présentent et les parties du cerveau sur lesquelles est intervenu le docteur Penfield. À l'époque, certains lui reprochent de ne pas avoir de véritables programmes scientifiques et de mener ses recherches au gré des patients qu'elle rencontre. Mais, petit à petit, ses travaux l'amènent à comprendre le rôle de différentes zones du cerveau. Pour Julien Doyon, qui connaît Brenda Milner depuis 1982 et dirige aujourd'hui le Centre d'imagerie cérébrale McConnell du Neuro, cette méthode de travail est peut-être le plus grand legs de Brenda. À l'époque, l'étude du comportement en lien avec les fonctions du cerveau était un domaine très peu connu. Elle a vraiment jeté les bases de la neuropsychologie. Sa grande force est d'observer un patient sur les plans comportemental et fonctionnel et ensuite de se poser les bonnes questions pour comprendre les troubles dont il peut souffrir. Son collègue, Gabriel Léonard, souligne à quel point Brenda Milner était loyale, attentive et très empathique envers les patients. C'est son habileté à interagir avec les patients, à se mettre à leur niveau, ce qui lui a permis de faire ses découvertes. La réputation de Brenda Milner en 1954 est telle qu'un neurochirurgien de renom l'invite à Hartford pour étudier l'un de ses patients. À l'époque, on ne connaît ce patient que sous les initiales HM. De son vrai nom, ce sera Henry Molaison, ne sera dévoilé plus tard qu'à sa mort. Il deviendra, grâce à Brenda Milner, le patient le plus célèbre de l'histoire des neurosciences. Aux prises avec des crises d'épilepsie incontrôlables, il avait été opéré l'année précédente. On lui avait retiré une partie du lobe temporal, dont les parties de l'hippocampe et de l'amygdale. L'opération avait grandement aidé à atténuer ses crises, mais quand Brenda Milner le rencontre, il a perdu toute capacité à former de nouveaux souvenirs. Chaque jour, elle doit se présenter à lui et lui expliquer quel est son métier. Un jour, elle a l'idée de faire exécuter à ce patient une tâche devenue un classique. Tracer le contour d'une étoile, mais en voyant sa main et la feuille sur laquelle on dessine, réfléchit dans un miroir. Elle comprend aussitôt que l'observation est capitale. C'est réellement incroyable de voir ce patient apprendre une tâche alors qu'il n'avait aucune conscience de l'avoir exécutée. La découverte conduira les scientifiques à conclure qu'il existe plusieurs types de mémoire qui relèvent de différentes parties du cerveau. Elle permettra de distinguer la mémoire procédurale, responsable donc de l'apprentissage, la mémoire déclarative qui s'occupe des faits et des événements. Elle éclaircira aussi le rôle que joue l'hippocampe pour transformer des souvenirs à court terme en souvenirs long terme. Même s'il s'agit là de la découverte la plus célèbre de Brenda Milner, le chercheur Julien Doyon rappelle qu'on lui en doit bien d'autres. Ses études menées sur de nombreux patients ont notamment permis d'éclaircir les rôles de l'hémisphère droit et de l'hémisphère gauche du cerveau, ainsi que les lobes frontaux et temporaux. Elle a reçu le prestigieux prix international Gardner et Kavli et est membre de l'Académie nationale des sciences des États-Unis, de la Société royale de Londres et de la Société royale du Canada. Elle a été promue compagnon de l'Ordre du Canada, grande officière de l'Ordre national du Québec et surtout grande montréalaise. Mais un prix a toujours échappé à Brenda Milner, le Nobel. Elle est incroyable, elle est fabuleuse. Sa contribution est phénoménale. Je ne comprends pas pourquoi elle n'a pas reçu le prix Nobel à lancer à la presse le chercheur de l'Université Columbia, lui-même lauréat du prix Nobel de physiologie ou de médecine. Sans qu'on leur pose la question, plusieurs personnes interviewées dans le cadre de ce dossier ont affirmé qu'elle aurait dû recevoir le prix Nobel. C'est notamment l'opinion de Maryse Lassonde et de Franco Leporte, tous deux professeurs au département de psychologie de l'Université de Montréal. Tout le monde aimerait avoir le prix Nobel, dit la principale intéressée, c'est-à-dire Mme Milner. Je sais que des gens ont suggéré mon nom. Je suis même allée à une réunion en Oslo, alors qu'ils éliminaient des candidats, je crois. Et je pense que j'ai fait une mauvaise chose. Qu'est-ce qu'elle a fait? Comme aller magasiner pendant l'une de ces rencontres du comité, pendant que le comité donnait une allocution. Je n'essayais pas d'être insultante ou rien de ça. Mais n'écrivez pas que je n'ai pas reçu le prix Nobel parce que je suis allée magasiner. J'ai eu beaucoup de prix dans ma carrière. Mon travail a aussi été très bien reconnu. Alors voilà, c'était une autre page d'histoire sur Madame Brenda Milner, parue dans la presse. Excusez-moi, je cherche l'auteur. Désolé. Paru par Philippe Mercure, je m'excuse. Alors, nous continuons. Francine reprend la parole. Merci, Francine.
Oui, avec un petit défi que je me suis lancé. Chaque édition de Québec Science se conclut avec une bande dessinée qui est intitulée Rétroviseur. En fait, c'est l'histoire des sciences qui est vue par Saturnum. Saturnum, c'est l'auteur de la bande dessinée. Alors, je vous lis, en tout cas, j'essaie de vous rendre compte de celle qui est parue dans Québec Science, juillet-août 2018. Alors, le personnage central de la bande dessinée dit « L'avion est un moyen de communication de transport éprouvé, mais bon, oui, parfois, il arrive des accidents. Et lorsque cela se produit, il est important d'en comprendre les causes afin de rendre les vols du futur plus sécuritaires. » Alors, on rapporte l'intervention de deux inspecteurs enquêteurs. « Que s'est-il passé, d'après vous, chef, après cet écrasement ?» je dirais que l'avion s'est écrasé. Je vais demander que l'on fasse des appareils qui ne s'écrasent pas à l'avenir. » Alors le premier enquêteur dit à son chef, « Vous êtes un génie, chef. » C'est ce qui a amené à l'invention de la boîte noire. Les premières font leur apparition en France dans les années 1930 sous le nom de Hussonographe, parce que l'inventeur s'appelait François Hussonneau. Puis l'appareil le plus près du modèle courant arrive en 1958 en Australie. Celui-ci enregistre également les conversations du cockpit. Par exemple, entre deux copilotes canadiens. Le premier dit « Les Canadiens vont-tu faire les séries? » Et l'autre de répondre « On est en 1958 quand même, je le rappelle. » Car lorsqu'on parle d'une boîte noire, on parle en fait de deux enregistreurs séparés. L'un pour le son et l'autre pour des données relatives à l'engin. Elles deviennent obligatoires, ces boîtes noires, à partir des appareils commerciaux dès 1960 en Australie et bientôt le reste du monde suit. Les premières boîtes noires enregistraient leurs données sur une bande photographique, mais celles qui se répandent à partir de ce moment utilisent une bande magnétique. Dans les années 1990, ce système est remplacé par l'enregistrement numérique qui est plus facile et durable, plus fiable, je m'excuse, et durable, car il faut que ces boîtes puissent résister aux pires conditions. Mais il reste un problème. Même si elles émettent un signal de détresse, elles ne sont pas toujours retrouvées. C'est pourquoi à l'avenir, on se tournera peut-être vers la transmission des enregistrements directement au sol. Fin de l'histoire? Aucun nom. Le personnage principal revient dans la BD et dit « Bon, il reste quand même une question cruciale à laquelle je dois répondre. Pourquoi appelle-t-on ça boîte noire si c'est orange? » Le terme semble être apparu à la fin des années 1950, mais on n'en sait pas plus. Alors voilà, c'est ce qui conclut l'histoire des sciences vue par Saturnum, qui conclut la revue Québec Science, cette fois dans l'édition juillet-août 2018.
Excellent. Merci beaucoup, Franck. Ah, nous voici de retour après. Peut-être qu'on pourrait demander à Siri ou à Alexa d'intervenir au niveau de...
Oh, peut-être, mais moi, je ne me risque pas à ça. Je vous laisse ça, Hélène.
Merci. Écoutez, moi, j'ai un sujet ici qui est bien d'actualité. Ça touche la censure. Là, en fait, ce qu'on pourrait intituler « La nouvelle censure ». C'est encore une fois un texte de Francine Pelletier paru dans Le Devoir cette semaine, le 1er août. Il y a longtemps que nous n'avions pas discuté de liberté artistique au Québec. 70 ans, en fait, au moment où le refus global mettait en charpie la notion d'une province docile où rien, selon l'expression consacrée, ne devait changer, en exigeant la fin de l'assassinat du présent et du futur, de l'ignorance, du repli sur soi et de la pudibonderie excessive, cet énorme pavé dans la mare a tracé les contours d'une société nouvelle, le Québec de la Révolution tranquille et d'après. La liberté que les 15 artistes regroupés autour de Paul-Émile Bordua réclamaient pour eux-mêmes, c'est tout le Québec qui en a bénéficié. C'est peut-être pourquoi on s'émeut encore trop peu, à mon avis, de l'annulation coup sur coup de Slav et de Canada, de Robert Lepage et associés. La liberté artistique était non seulement une des assises du Québec moderne, mais sa plus spectaculaire distinction, la tiendrons-nous peut-être un peu trop pour acquise? Personne ne remet encore une fois la légitime colère des Noirs ou des Autochtones grossièrement sous-représentée encore aujourd'hui sur Saint-Noyard. Mais peut-on vraiment croire qu'une erreur de jugement, reconnue par Lepage lui-même, méritait une telle sanction? Deux spectacles de théâtre annulés du jour au lendemain, deux spectacles prometteurs, non seulement sur le plan artistique, mais par son contenu inusité. Deux spectacles de blancs, voulant parler une fois des autres. Passez-moi l'expression, mais ça s'appelle de la pudibonderie excessive, version postmoderne. La responsabilité ultime d'un tel gâchis ne repose pas tant chez les manifestants qui portent des griefs légitimes, bien que souvent mal articulés, mais plutôt chez leurs intermédiaires, les producteurs commerciaux qui n'auraient jamais dû baisser pavillon. Si jadis les forces de l'ordre étaient par définition frileuses, aujourd'hui ce sont les gros investissements qui grelottent. La peur de perdre des ventes ou simplement leur réputation a fait fuir le Festival de jazz de Montréal pour Slav et puis le Park Avenue Armory à New York pour Canada. Il s'agit pourtant de deux gigantesques boîtes culturelles où le risque fait partie de la marque de commerce, des entreprises qui ne donnent pas dans la guimauve ou le convenu. Curieusement, leur réputation de cascadeurs, loin de les enhardir quant à la controverse, les a fait fuir encore plus vite. Étant eux-mêmes des organisations vouées à présenter des voix dissidentes, peut-être se sont-ils montrés un peu trop sensibles à la cacophonie ambiante. Car plutôt que de monter aux barricades pour défendre leur production, ce qui aurait été normal de leur part, ils ont choisi d'endosser la contestation politique en larguant bêtement leur propre représentation artistique. C'est dire combien les temps ont changé, combien le pouvoir de la rue est maintenant chose bien établie. Le combat pour la liberté d'expression est beaucoup plus compliqué aujourd'hui parce qu'il a très peu à voir avec un État répressif imposant ses règles à une population largement impuissante. Aujourd'hui, c'est la population qui, loin d'être soumise et repliée sur elle-même, exige une autre façon de faire par rapport à l'establishment culturel, politique ou autre. Les rôles ont été complètement renversés, en d'autres mots. Alors que l'État veillait au grain jadis et que la police administrait les coups de pied au cul au besoin, aujourd'hui, ce sont les militants qui veillent au grain et les gros producteurs qui jouent les gardiens de l'ordre. Mais venons-en à l'essentiel. Ce n'est pas parce qu'on est en 2018, à un moment où la question des minorités et surtout celle des Autochtones est devenue incontournable, qu'il faudrait oublier le danger de laisser les revendications politiques dicter le comportement des artistes. Peu importe si les revendications idéologiques viennent aujourd'hui d'en bas plutôt que d'en haut, comme dans le temps de Duplessis, le danger est, sinon toujours le même envergure, toujours présent. Le danger est celui d'avoir les idées qui ont été préalablement approuvées en circulation. Seul ce qui correspond à la ligne d'action politique du jour sur la place publique. Dans le cas de Slav et de Canada, les objections politiques des uns, renforcées par la peur financière des autres, ont fait taire ce qui aurait dû être entendu. C'est bel et bien des cas de censure d'autant plus inadmissibles qu'on est, justement, en 2018. Devant un tel dérapage, il faut se demander, à l'instar du chef du Parti québécois Jean-François Lisée, si le gouvernement québécois n'a pas effectivement la responsabilité de lever cette interdiction de parole. Comme disaient les signataires du refus global, « Faites de nous ce qu'il vous plaira, mais vous devez nous entendre. » C'était un texte de réflexion de Mme Francine Pelletier qui s'intitulait « La nouvelle censure » paru dans Le Devoir le 1er août. Alors voilà, ce sera la fin de notre émission pour aujourd'hui. Je vous remercie à tous et à toutes d'avoir été à notre écoute. Merci encore une fois, chère Francine, fidèle collaboratrice.
Ça me fait toujours plaisir, Hélène. On se retrouve la semaine prochaine.
Absolument. Merci beaucoup, Maurice, pour ton appui, ta solidité à la régie et ton aide. Merci. Alors voilà, c'est Hélène Bédard qui vous dit au revoir. Et évidemment, on se donne rendez-vous vendredi prochain, à la même heure et au même poste. Merci.